Je vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous. Le printemps est à nos portes et avec lui le retour de nombreuses espèces animales sur notre territoire. Avez-vous remarqué des nouveaux venus dans votre cour ou votre jardin ? Le réchauffement climatique affecte les insectes et plusieurs espèces qui ne parviennent pas à vivre dans un milieu trop chaud. Cela les pousse à migrer vers le nord pour trouver un peu plus de fraîcheur. C'est le cas du grand porte-queue, un nouveau papillon établi depuis peu au Québec. Même en hiver, l'aire de répartition de ce gros papillon de jour d'Amérique du Nord a gagné 300 km vers le nord en 20 ans. Cela suscite bien des questions, en commençant par est-ce que la venue d'espèces exotiques peut avoir des conséquences néfastes sur l'écosystème ? Et qu'arrive-t-il aux insectes qui ne font pas le déplacement vers le nord ? Nous en parlons tout de suite, restez là. Aujourd'hui, nous parlons avec nos invités de l'impact des changements climatiques sur les insectes et de la migration nordique du grand porte-queue à un papillon de jour qui ne survivait pas avant l'hiver québécois. Nous sommes donc en compagnie de Julie Augustin, qui est chercheuse, qui a un doctorat de l'Université de Montréal en sciences biologiques avec une spécialisation en entomologie et qui a travaillé, elle, sur une micro-guêpe parasitoïde et le climat, comment le climat affecte cette micro-guêpe. Bonjour.
Bonjour.
On est né en compagnie aussi de Maxime Larrivé, le directeur de l'Insectarium de Montréal. Bonjour.
Bonjour.
Donc, le réchauffement climatique modifie l'aire de répartition de nombreuses espèces qu'on appelait autrefois exotiques, mais qui font aujourd'hui partie de notre paysage. C'est le cas de certains insectes, dont ce gros papillon de jour d'Amérique du Nord, le grand porte-queue, qui semble s'être installé dans le sud du Québec. Monsieur Larrivé, présentez-nous ce nouveau venu.
Bon, ben, il s'agit, en fait, c'est ça, il porte bien son nom. C'est le plus grand papillon d'Amérique du Nord, le papillon de jour, qui va faire jusqu'à 15 cm d'envergure. C'est un papillon qui, comme vous l'avez mentionné, était plutôt d'origine néotropicale auparavant, mais dont la répartition, la limite nord de la répartition auparavant, se retrouvait un peu au sud de la ville de Toronto, par exemple, pour donner une idée aux auditeurs. Et en fait, depuis les dernières 20-25 années, il a augmenté sa répartition là, de façon très, très, très rapide. En fait, c'est le papillon, pour l'instant, qui l'a fait le plus rapidement en Amérique du Nord, jusqu'au nord de la ville de Montréal, donc jusqu'au bouclier canadien, si on veut, là où sa plante hôte, qui s'appelle le frêne épineux, qui est le seul citrus qui pousse dans nos contrées, peut arriver à croître. C'est un papillon magnifique. Il est noir, sur fond noir, avec des belles bandes jaunes sur les ailes du haut et le pourtour des ailes jaunes aussi et de très longues queues sur les ailes du bas. Et lorsque les ailes sont fermées, il est majoritairement jaune avec quelques taches de orange, brûlé rouge, ce qui fait en sorte que il laisse personne indifférent, en fait.
Oui, où est-ce qu'on peut le croiser? Est-ce qu'on le croise au Jardin botanique de Montréal?
Oui, en fait, le Jardin botanique, c'est un super endroit pour le croiser, parce qu'on y retrouve, sa plante hôte, le frêne épineux, à quelques endroits dans le jardin. Et aussi, c'est pas la seule plante que le grand porte-queue peut exploiter dans le nord de sa répartition, mais au Québec, c'est la seule qui pousse ici, mais on peut. J'ai les noms latins uniquement, là. La chenille va pouvoir s'alimenter de Ptilea trifoliata aussi.
Oui. C'est
une plante, mon Dieu. J'aurais de la misère à la décrire là, adéquatement parce qu'elle est assez très distincte là,
Est-ce qu'elle a un nom commun?
Je ne connais pas son nom commun. Des fois, c'est le défaut des scientifiques, c'est qu'on apprend les noms en latin sans faire attention nécessairement au nom commun. Mais oui, elle en a un. On pourra le chercher. Mm. En fait, c'est l'orme de Virginie.
Oui.
Si je me rappelle bien, là. Et c'est une des plantes hôtes que le grand porte-queue va utiliser, qui se retrouve aussi au jardin botanique de façon horticole, mais qui peut se retrouver dans plusieurs jardins dans le sud du Québec aussi. Et parce que c'est une plante horticole qui est souvent plantée là, dans les aménagements paysagers.
Est-ce que ça pose problème que le grand porte-queue soit au Québec maintenant?
En fait, non. À court terme, non. Nous, ce que nos recherches indiquaient, c'est le risque de déphasage entre la vitesse à laquelle le climat dans lequel le grand porte-queue peut se reproduire se déplace vers le nord et la vitesse qui est beaucoup moindre à laquelle sa plante hôte peut arriver à se déplacer vers le nord. Donc, pour l'instant, la plupart des insectes au Québec vont être limités dans leur déplacement vers le nord pour des raisons climatiques. Pas nécessairement des raisons de la présence de leur plante hôte, si c'est des herbivores, ou de l'hôte potentiel, en fait, pour des parasitoïdes, des trucs comme ça. Et dans le cas échéant, c'est une des premières démonstrations où le papillon, la niche climatique du papillon, maintenant, se retrouve plus au nord que la région de le bouclier canadien, sauf que sa plante hôte ne s'y retrouve pas encore. Elle n'a pas réussi à s'adapter ou à tirer profit finalement de la modification du climat, parce qu'il n'y a pas uniquement le climat, des fois, qui va être important pour le déplacement des plantes. Il va y avoir le type de sol, la capacité aussi de germiner, de germer, de rentrer en compétition avec les plantes qui sont déjà établies dans ces endroits-là. Et à long terme, si le climat continue d'évoluer très rapidement, il y a un risque de déphasage important là, entre la répartition de ces plantes-là et le grand porte-queue dans les siècles à venir, en fait.
Oui.
Et c'est une des menaces qui est des plus importantes, en fait, en lien avec les changements climatiques. C'est le fait que les changements climatiques, les insectes, les plantes, en fait, tous les organismes vivants subissent présentement et potentiellement sans équivalent historique. Donc, en dehors de leur capacité d'adaptation qui a été établie dans les centaines, voire les millions d'années précédentes, là, lorsqu'il y avait des ères glaciaires et des périodes comme ça, ils se produisaient sur des échelles temporelles qui étaient beaucoup plus larges. Donc, il y avait une capacité d'adaptation qui était
plus longue aussi.
C'était plus grand, plus longue, exactement.
Oui. Madame Augustin, est-ce que c'est fréquent qu'une espèce d'insecte parte à la conquête de nouveaux territoires?
Ben, ça, en fait, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, comme disait Monsieur Larrivé. Ça va dépendre de l'adaptation climatique qu'il va y avoir dans ces nouveaux territoires, mais aussi de la présence de leur hôte. Donc, ça pourrait être leur hôte végétal, l'arbre sur lequel ils se nourrissent, la plante dont ils ont besoin. Mais ça peut aussi être leur hôte, par exemple, dans le cas des parasites ou des prédateurs. Il y a besoin que leur hôte dans lequel ils vont pondre, qu'ils vont parasiter, ou alors leur proie soit aussi présent. Et donc, que leur proie se soit adaptée aussi à ce nouveau territoire et à ce nouveau climat. Donc, pour certaines espèces qu'on connaît, celles qui sont d'importance économique, celles qu'on suit le plus, on a souvent observé ce décalage vers des nouveaux territoires, vers les plus hautes latitudes. Il y a beaucoup d'espèces qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas la distribution actuelle, dont on ne connaît pas les possibilités d'adaptation. Et pour ces espèces-là, pour la majorité des espèces, en fait, on ne sait pas s'il y a eu un déplacement ou s'il va y en avoir un.
Oui, on vient de parler de papillons, mais quels sont les autres insectes qui s'adaptent au nouveau climat, Madame Augustin?
Oui, moi je connais surtout les espèces qui vont être d'importance au niveau agricole. Donc un exemple qu'on peut citer, c'est la punaise marbrée. Qui a été introduite aux États-Unis il y a quelques années et qui, depuis 5 ou 6 ans, on retrouve en Ontario et au Québec. Donc, il y a vraiment eu un déplacement vers le nord avec les nouvelles conditions climatiques qui lui permettaient maintenant de survivre, entre autres, aux hivers du Québec, alors qu'avant, elle n'était pas capable.
Est-ce qu'il n'y a pas d'autres insectes qui rentrent en compétition? Est-ce qu'il faut qu'ils compétitionnent avec, finalement, ceux qui sont déjà là?
Oui, pour le cas de la punaise marbrée, je sais qu'il y a beaucoup d'études en ce moment qui sont en train d'étudier ça. Comment est-ce qu'elles vont affecter les communautés de punaises qui sont indigènes? Donc, c'est étudié en Amérique du Nord, mais aussi en Europe en parallèle. Et si on se base sur d'autres insectes dont on sait qu'ils ont affecté les communautés, on peut penser que ça va vraiment être problématique à ce niveau-là. Donc,
oui.
Un exemple qui est bien connu, c'est la coccinelle asiatique. Et on a vu au fur et à mesure de son implantation dans les différents territoires, elle avait vraiment affecté les communautés de coccinelles qui étaient natives.
Et les remplacer finalement. Hein.
Oui, petit à petit, oui.
Oui. Monsieur Larrivé, comment s'adaptent les papillons au changement climatique, l'ensemble?
Ben, en fait, c'est il y a deux éléments majeurs. Il va y avoir le climat, donc la capacité de compléter son cycle de vie à des limites qui sont plus nordiques, hein, parce que les papillons, comme la plupart des insectes, là, vont avoir des stades différents. Il va y avoir les œufs, ensuite la chenille, la chrysalide, et finalement le papillon adulte. Et ce qui est très important, c'est ce qu'on constate un peu aussi, vous avez mentionné dans l'ouverture que le papillon, le grand porte-queue, survivait maintenant les hivers au Québec, mais je pense que c'est important de mentionner qu'il survit aussi les automnes, parce que ce qui est très essentiel là, pour un facteur de succès important, c'est que surtout au niveau climatique, c'est que ce qu'on a remarqué, c'est que le grand porte-queue, pour survivre au Québec aussi, devait atteindre un stade de développement où normalement il tombe en diapause. Donc il va se préparer pour survivre à l'hiver. Et ce qui se passait auparavant, c'est que les froids qui tuent les insectes à l'automne arrivaient de plus en plus tôt, parce que la saison de croissance, donc les premiers gels étaient beaucoup plus précoces, et le grand porte-queue était dans un cycle de son développement où il n'était pas encore prêt à résister au froid d'hiver. Donc les chenilles mouraient sur les plantes sur lesquelles elles s'alimentaient. Alors que maintenant, la saison de croissance a augmenté de près de 3 semaines au Québec dans les 20 dernières années, dans le sud du Québec particulièrement, et ça donne le temps au grand porte-queue d'atteindre finalement le stade de développement où il va tomber en diapause et plus apte à résister au grand froid et donc à survivre l'hiver par la suite. Donc ça, c'est un des facteurs importants et qu'on présume qui se produit chez la plupart des espèces qui arrivent maintenant parce que le grand porte-queue n'est pas seul au Québec là en termes de papillons et d'insectes à se retrouver ici alors qu'il était absent il y a une vingtaine d'années, il y avait 25 ans. Et l'autre élément, ben on en discutait tantôt, c'est la présence des plantes hôtes. Il faut absolument que la plante hôte soit présente plus au nord pour que l'augmentation de la répartition, en fait, se fasse avec succès.
Oui, ça produit. Il y a les automnes, mais il y a aussi les printemps. L'an dernier, le printemps a été tardif, ce qui a retardé l'arrivée des papillons monarques. Donc,
oui, mais c'est ça. Il faut distinguer deux choses. L'augmentation de la répartition, donc de l'aire de répartition, de reproduction d'un papillon n'est pas la même chose qu'une migration. Donc, dans le cas du monarque, il va, étant donné que c'est un papillon migrateur qui va hiverner dans le sud, le fait qu'il arrive plus tard au printemps n'est pas nécessairement il y a des raisons climatiques à ça, mais c'est pas le même phénomène biologique duquel on parle, en fait. C'est sûr que les changements climatiques peuvent affecter la migration du monarque à toutes les périodes de son cycle là, durant l'année, mais pour des raisons différentes, des espèces qui vivent ici ou vont vivre à l'année, si on veut, comme le grand porte-queue.
Oui, c'est les changements de température ont quand même un grand impact sur le fonctionnement des insectes. Quels sont les effets concrets du réchauffement sur les insectes, Madame Augustin?
Alors, la première chose, c'est que les insectes, c'est des organismes qu'on appelle poikilothermes. Donc ça veut dire que la température de leur corps, c'est la même que la température de leur environnement. Par exemple, si c'est 20 degrés dehors, le corps des insectes va être à peu près à 20 degrés. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment affecter toutes les réactions chimiques à l'intérieur du corps des insectes. Donc plus il va faire chaud, plus les réactions chimiques vont être rapides et plus tous les mécanismes physiologiques vont se dérouler rapidement. Donc le développement va être plus rapide, mais ils vont vivre moins longtemps. Et donc ça, ce que ça va affecter, c'est vraiment tout le fonctionnement des insectes, leur comportement, leur manière physiologique, leur capacité de trouver les hôtes, etc.
Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Il y a eu une étude britannique en 2018 qui affirmait que ça nuisait aussi à la fertilité. Est-ce que les changements climatiques peuvent nuire à la reproduction des insectes ?
Oui, en fait, tout ce qui est reproduction, c'est vraiment l'un des facteurs qui est le plus sensible à la température. Et le réchauffement, ça va affecter cette reproduction de différentes manières. Donc ça peut affecter soit directement la fertilité des individus s'ils sont exposés à une température trop élevée. Par exemple, il y a les spermatozoïdes des insectes mâles qui généralement vont être désactivés ou qui vont être moins efficaces s'ils sont exposés à vraiment un gros choc thermique. Puis ça va aussi affecter le comportement des insectes, par exemple leur capacité à trouver ou à rechercher leur partenaire sexuel dans l'environnement, ou même leur capacité à s'accoupler une fois qu'ils ont trouvé leur partenaire sexuel. Encore une fois, parce que tout leur comportement, tous les mécanismes à l'intérieur de leur corps vont vraiment être affectés par cette température. Et donc s'il fait trop chaud, tous les mécanismes de reproduction et de fertilité vont être vraiment moins efficaces.
Oui, monsieur Larrivé, est-ce que c'est la même chose pour les papillons? Est-ce que ça peut affecter?
Absolument. Tout ce que Mme Augustine vient de mentionner est vrai pour les papillons aussi. Souvent aussi, les températures très élevées viennent avec des périodes de sécheresse. Et dans le cas des papillons, les larves vont être très affectées parce que les plantes vont mourir plus rapidement ou vont être complètement desséchées, donc moins propices là, au niveau nutritif pour l'alimentation des chenilles. Et pour les adultes, en plus des enjeux comportementaux qui étaient mentionnés par Mme Augustine, c'est aussi, il va y avoir l'enjeu des sources de nectar. Donc, les fleurs vont faner plus vite. Le nectar va être parfois trop visqueux, donc ils pourront pas le boire. C'est des événements extrêmes comme ça vont souvent contribuer à des baisses énormes des populations. L'été passé, dans tout le nord-est de l'Amérique du Nord, c'était une année, on a eu des températures très, très chaudes, une longue période de sécheresse estivale. C'était une des pires années en termes de... Toutes les espèces étaient présentes, mais le nombre d'individus qu'on observait, qu'on documentait, était très, 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 très bas là, pour la majeure partie des espèces. Donc, on peut s'imaginer que sur des périodes où on va avoir des étés très, très chauds, des étés très, très secs aussi, à long terme, le taux de survie des populations d'insectes à différents endroits pourrait être fortement menacé.
Oui, il y a des effets du changement climatique aussi sur certains parasitoïdes comme la guêpe que vous étudiez, Madame Augustin. Vous penchez sur les effets de la température, sur le comportement de cette guêpe-là. Comment le climat affecte cette guêpe?
Alors, la guêpe sur laquelle j'ai travaillé, elle s'appelle Anaphes listronauti. C'est une espèce qui est native d'Amérique du Nord et qui s'attaque au ravageur le charançon de la carotte, qui cause beaucoup de dommages dans les champs de carottes, justement. Et donc, en fait, j'ai étudié juste l'effet de la température, pas les autres facteurs du climat comme la pluie ou le vent qui peuvent aussi affecter les parasitoïdes. Et donc, les trois comportements que j'ai regardés, c'est la marche, l'exploitation de l'hôte et l'accouplement. Et en gros, les résultats, c'est que l'augmentation de température qui est prévue pour le Québec va pas être si problématique que ça pour cette guêpe parasitoïde. Elle va toujours être capable de se déplacer, d'être active, d'exploiter l'hôte. Par contre, le problème, ça va vraiment être les phénomènes extrêmes. Par exemple, les grosses vagues de chaleur ou les jours où il va y avoir vraiment des canicules avec des températures très élevées. Là, elle est plus capable de se comporter correctement. Et c'est vraiment là qu'il va y avoir des problèmes pour cette guêpe.
Oui, là, ça pose problème parce qu'elle est utile dans la lutte biologique.
Oui, c'est ça.
Monsieur Larrivé, est-ce que c'est la même chose pour les papillons? Est-ce que les grosses vagues de chaleur, les canicules, peuvent être des événements dramatiques pour les papillons?
Oui, oui, c'est exactement ce que je mentionnais plus tôt. C'est donc ça va causer problème à tous les stades de développement durant la période de chaleur. Le comportement des reproducteurs va être affecté parce que lorsqu'il fait trop chaud, en fait, les insectes, comme les papillons, vont avoir tendance à être beaucoup moins actifs. Donc, les mâles, les femelles vont... les chances qu'ils se rencontrent pour s'accoupler vont être diminuées. Au niveau de l'habitat, là, comme je mentionnais, les sources de nourriture vont être affectées, de moins bonne qualité. Et on le constate, là, à chaque année, en fait, les dernières espèces de papillons à avoir disparu du Canada, les papillons de jour, ont disparu, en fait, de l'ensemble du sud de l'Ontario suite à deux vagues de chaleur et des sécheresses prolongées là, en 1989 et en 1990. Et ces deux espèces-là qui vivaient dans des milieux plus secs habituellement ont été complètement éradiquées là, des dernières populations, des derniers endroits où ils étaient connus au Québec. En fait, en Ontario, là, on ne les a jamais revus depuis.
Oui.
Donc ça, c'est les derniers éléments bien documentés là, au Canada de ça. Mais ouais.
Donc, est-ce que les espèces qui viennent aussi s'établir, par contre, peuvent nuire aux espèces indigènes? Est-ce que le climat peut favoriser tout ça, Madame Augustin?
Oui. Alors, pour les espèces qui viennent s'établir, ça va surtout dépendre vraiment des flux de marchandises ou, par exemple, de produits végétaux. Après, le fait qu'elles vont être capables de s'établir ou non sur le territoire ou alors d'étendre leur territoire, ça va vraiment dépendre, comme on disait tout à l'heure, des conditions climatiques et des autres espèces qui sont déjà présentes sur place. Donc, ça peut être les espèces dont elles ont besoin pour se nourrir ou alors les espèces prédatrices qui vont potentiellement s'attaquer à elles. Donc, c'est vraiment plein de facteurs qui vont faire qu'une espèce qui est introduite quelque part va vraiment proliférer ou alors qu'elle va rester sous contrôle.
Monsieur Larrivé, est-ce que chez les papillons, c'est la même chose? Est-ce qu'il peut y avoir de la compétition avec des nouveaux papillons?
En fait, c'est une excellente question. C'est très dur à documenter les comportements de compétition, donc d'exclusion d'accès aux ressources par des espèces introduites de papillons sur d'autres. Pour l'instant, au Québec, on soupçonne que c'est pas le cas. Ça n'a pas été mesuré encore. On a une espèce introduite là par des qui a été découverte en fait autour de l'aéroport à Mirabel en 2005, qui s'appelle le bleu commun, qu'on appelle maintenant le bleu commun d'Europe, qui a complètement explosé là, dans sa répartition, mais aussi dans son abondance dans la grande région de Montréal. Puis maintenant, on le retrouve jusqu'à Toronto, on le retrouve au Vermont. Puis les raisons pour lesquelles il a été capable d'élargir sa répartition comme ça rapidement sont exactement celles qui étaient mentionnées par Mme Augustin. Et ce que ça fait en sorte, c'est que, étant donné que les prédateurs naturels de cette espèce-là ne sont pas présents en bonne partie, il y a une certaine période où la faune du nouveau milieu où on retrouve ces espèces introduites-là peut ou doit potentiellement s'adapter si elle est pour tirer profit de cette nouvelle ressource-là et l'attaquer, mais des fois, c'est pas le cas du tout. Et l'espèce va proliférer complètement. Mais pour l'instant, malgré le fait, là, en fait, ce serait un sujet d'étude gradué hyper intéressant, là, parce qu'on a les données pour le faire, mais ce serait de comparer dans les endroits où le bleu commun d'Europe se retrouve, par exemple, si les espèces indigènes qui exploitent les mêmes ressources ont diminué dans les 20 dernières années par rapport avant l'arrivée finalement du bleu commun d'Europe.
Oui. La plupart des insectes qui vivent donc sur une aire très réduite et ont des capacités de déplacement limitées sont peut-être incapables de fuir les conditions néfastes rapidement des changements climatiques. Qu'arrive-t-il aux insectes qui ne font pas le déplacement vers le nord, Madame Augustin?
Encore là, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, mais si vraiment les conditions climatiques augmentent ou varient de manière trop importante par rapport à leur capacité d'adaptation, là, ils vont potentiellement devenir éteints. Ils ne sont pas capables de se déplacer et si les conditions environnementales de là où ils sont varient trop rapidement.
Oui. Monsieur Larrivé, pour le grand porte-queue, si le frêne épineux n'arrive pas à suivre le même rythme que lui, qu'est-ce qui va se passer pour ce beau papillon-là?
Pour l'instant, à court terme, son aire de répartition n'augmentera pas vers le nord et les conséquences seront pas énormément fâcheuses. Mais à long terme, il faut comprendre que l'aire de répartition d'une espèce, elle a aussi une limite au sud. Et si les conditions, pour les raisons qu'on mentionne présentement, donc la chaleur, les événements météorologiques extrêmes augmentent dans le sud de sa répartition et que cette la limite sud se contracte vers le nord, il risque avec le temps aussi d'y avoir une contraction générale, donc une perte de la généralisée là, de la taille de son aire de répartition, et avec le temps aussi le défi pour des espèces, c'est une question de résilience. Donc les individus diminuent dans les endroits où ils arrivent à survivre, et que le milieu de survie, donc l'aire de répartition où les espèces arrivent à survivre, se contracte plus rapidement qu'il augmente au nord. Donc c'est vraiment ce type de défi-là qui pourrait à long terme être problématique là, pour le grand porte-queue, mais pour l'ensemble des insectes herbivores, en fait.
Madame Augustin, vous avez animé des ateliers de vulgarisation sur les insectes dans le cadre du LUPOP Montréal, l'Université populaire, en novembre dernier. Est-ce que vous abordez des questions des changements climatiques?
Oui, un petit peu. En fait, la raison pour laquelle j'avais fait cet atelier de vulgarisation, c'est parce qu'il y a une étude qui est sortie l'année dernière qui disait que l'une des mesures cruciales pour vraiment améliorer l'adhésion des gens et des décideurs aux mesures de conservation des insectes, c'était d'améliorer l'image des insectes, de faire plus de communication à leur sujet pour que finalement les mesures de conservation soient plus efficaces, soient mieux acceptées. Donc c'était vraiment dans cette idée-là que j'avais été faire cet atelier à l'UPOP. Donc le but vraiment, c'était de montrer à quel point les insectes sont variés, à quel point ils sont beaux, à quel point ils ont une capacité de cognition quand même assez complexe, de communication, d'apprentissage, etc., justement pour améliorer leur image et faire que les mesures d'adhésion aux mesures de conservation soient plus respectées, soient plus appréciées par la population.
Oui, et qu'on peut rencontrer avec, grâce au changement climatique finalement, des papillons aussi magnifiques que le grand porte-queue, c'est ça? Merci beaucoup. Bon, merci à tous les deux. On était en compagnie de Julie Augustin, qui est chercheuse et qui a un doctorat à l'Université de Montréal en sciences biologiques, spécialisation en entomologie, et de Maxime Larrivé, le directeur de l'Insectarium de Montréal. Merci.
Merci beaucoup.
Bonne journée, merci.
Bonne journée.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Valérian Fournier. À la recherche, Aurélie Lagueux-Beloin. À la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Radio-VM rediffuse l'émission au cours de la semaine. Vous pouvez aussi l'écouter sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. Si c'est le cas, partagez-la. En attendant, bonne semaine. Portez-vous bien. Génétique.